Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface, Les Caprices de Thérèse. Dégustez l'excellence. Chut, on écoute la télé avec votre agence de voyage Les Ailes du Partage. Amandine, votre interlocutrice privilégiée, vous proposera voyage à la carte et sur mesure, adapté à votre budget dans le monde entier. Passez du rêve à la réalité en réservant votre prochain voyage au 06 72 32 47 67 et sur voyage-solidaire.com.
Succomber au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Allez, au sommaire de ce tout nouveau numéro de Chut, on écoute la télé, l'hebdo. Aujourd'hui, notre coup de cœur ciné pour commencer au film L'amour, c'est Surcoté, le premier film de Mourad Winter qu'on va accueillir dans une poignée de secondes avec Laura Felpin et également Hakim Djemili va tout nous dire sur son film. En fin d'émission, il a passé toutes les barrières, ça y est, il a passé les battles, il a passé les groupes, il a passé toutes les étapes, les auditions à l'aveugle. Il se retrouve en demi-finale de The Voice samedi sur TF1 en direct. C'est Michael Gallo qui sera avec nous en fin d'émission. Nos coups de cœur télé cette semaine consacrés à Léo Mattei. Elle joue sa fille depuis de nombreuses années. Loïse is back dans Léo Mattei. Myra Schmidt nous dira tout sur ce retour dans cette 12e saison inédite qui démarre jeudi sur TF1. On va parler de la mini-série Cette nuit-là également avec la réalisatrice Myriam Vinocourt, Barbara Probst et Pascal Elbé qui seront nos invités exceptionnels. Et puis on va parler évidemment de Mario Premier Regard qui compte continue ce soir. Alors, Malik va-t-il dire oui à Clémence? On va essayer d'y tirer un peu les verres du nez. Clémence sera en ligne avec nous. Et puis le deuxième rendez-vous, c'est le nouveau rendez-vous avec l'amour. Marie, qui s'était fait connaître l'année dernière dans la 8e saison de Marie au premier regard, revient dans ce nouveau rendez-vous avec l'amour et nous dira tout entre les deux émissions qui la concernent en deuxième partie de soirée. Vous l'avez compris, c'est chargé. Aujourd'hui, dans Chut, on écoute la télé, on démarre tout de suite.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné cette semaine est consacré à L'amour, c'est Surcoté, et qu'on va découvrir mercredi au cinéma le premier film de Mourad Winter qui est avec nous. Bonjour Mourad.
Salut tout le monde, salut, comment tu vas?
Ça me fait très plaisir de t'avoir parce que j'ai vu le film il y a quelques semaines à l'Alpe d'Huez. Franchement, ça a été un bonheur. On a ri du début à la fin. Il y a aussi beaucoup d'émotions. Et puis vraiment, il y a toute une palette de comédiens que tu as embarqué en tout cas dans ce film, entre Laura Felpin, Hakim Djemili, Benjamin Tranier. Ils sont tous incroyables.
Ouais, bah écoute, ça c'est leur boulot. Enfin, ils ont fait, pour eux c'était une autoroute. Moi j'arrive, je leur donne le scénar et après je les laisse s'approprier le thème, l'idée et puis les intentions de jeu, et j'essaye un petit peu de les corriger, mais en fait j'ai pas grand chose à faire parce que c'est des Ferrari. T'arrives sur un plateau, t'as des gens comme ça, c'est du pain béni pour un réalisateur. Donc franchement sur tout ce qui est comédie, tout ça, moi j'ai été hyper ravi de partir avec eux. C'était une expérience, même humainement c'était génial quoi. J'ai envie de redorer bosser avec.
Comment est venue l'idée de départ?
Bah, l'idée c'est un bouquin. Pendant le Covid, je me fais bien chier et j'ai toujours ce truc de vouloir écrire un bouquin. Et je me dis bon, bah là il y a un peu de temps. Visiblement, on n'est pas prêt de sortir de chez nous, donc j'ai commencé à écrire et j'avais envie d'interpréter un mec un peu comme moi. Qu'on voit pas forcément à la télé ou même au cinéma, le petit rebeu qui a envie de tomber amoureux, et plutôt que d'être dealer ou chauffeur Uber, et ben moi j'ai décidé de faire une comédie romantique, tout simplement.
Une comédie romantique, mais avec plein aussi de moments d'émotion. Tout commence par le personnage de Hakim Djemili, qui va rencontrer celui de Laura Felpin, qui, elle, est au vestiaire d'une boîte de nuit. Il va noyer un peu son chagrin après avoir perdu son meilleur ami. Jusque-là, voilà, on n'en dit pas trop. Et il va y avoir tout plein de surprises au fur et à mesure du film, parce qu'il va y avoir cette espèce d'histoire d'amour, mais qui va être aussi le prétexte à nous embarquer dans le passé, dans le présent. Il y a plein de choses qui vont se mélanger, hein.
Ouais, complètement. On est sur plusieurs dimensions. C'est un film qui se joue au présent, mais aussi il y a 3 ans, et puis aussi sur des flashbacks de l'enfance pour mieux situer justement nos personnages et la dramaturgie. Et du coup, c'est une expérience formidable, et on a réussi vraiment à créer cette osmose sur le plateau qui fait que derrière ils ont bien interprété, ils ont bien compris le sujet, ils ont bien développé l'amour. Moi, c'était l'idée. C'était vraiment de développer l'amour sous 3 dimensions, quoi, que ça soit le couple, la famille et les amis.
La foi bien adaptée à notre époque.
Ouais, complètement. Mais c'est ce que je dis, c'est qu'en fait, on est dans une époque où c'est facile d'aimer, et en même temps, c'est paradoxal, c'est le plus difficile, c'est d'aimer. Il y a quelque chose d'assez nouveau dans les relations humaines, une ubérisation un peu de la sexualité et du couple en général. Et moi, je suis vraiment un grand supporter de l'amour, de la romance. Et du coup, bah, je m'étais dit, on va repartir sur ça. Et je trouve que ça manque de comédie romantique, surtout point de vue masculin. Je trouve, je connais pas, quoi.
Et toi, il y a quelque chose aussi d'un petit peu différent de se jouer sur plusieurs temporalités. Justement comme ça, et puis après amener aussi ce couple au fur et à mesure, parce que c'est pas vraiment un coup de foudre qu'on suit, mais c'est vraiment un amour qui se vit un peu de façon contemporaine aujourd'hui entre deux êtres qui sont qu'ont chacun leur casserole, hein, en quelque sorte. Et il y a eu des scènes aussi avec les parents qui sont géniales. François Damiens, c'est génial.
Ouais, François Damiens, c'est pareil, c'est François Damiens, c'est tu l'as sur le plateau. T'as beau avoir ton texte, à un moment donné, il va te dire, il va sortir quelque chose de mieux que ton texte. C'est un vrai génie. Nous, il nous a apporté justement cette expérience, parce que concrètement, on se retrouve avec que ce soit François Damiens ou Clotilde Courau. Nous, on est des petits jeunes, on arrive. Moi, c'est mon premier film, je me retrouve avec ce cast-là. Donc, ils donnent des conseils qui sont fascinants. Et donc, il y avait un petit peu ce double génération entre les petits nouveaux, ceux qui connaissent mieux le métier, et au milieu de ça, c'est comment on va traiter de l'amour. On va la traiter de manière assez contemporaine, avec les textos, les Instagram et tout ça, et la façon de faire des nouvelles générations, et aussi via les parents, que ce soit les parents d'Hakim ou les parents de Laura.
Par Saïda Jawad, qu'on embrasse très fort, je sais qu'elle nous écoute souvent et on l'adore, Saïda. Et puis pour les plus perspicaces, ils reconnaîtront peut-être le carrossier de camping, Monsieur Mendes, pour qui joue le papa d'Hakim Djemili, qui est génial, mais on reconnaît bien la voix.
Oui, exactement, Abbès Amani qui est grandiose. Et en fait, voilà, on a la possibilité, c'est pour ça. Bon, moi, je pensais que le film allait durer plus longtemps, parce que il me fallait quand même un petit peu de temps pour parler un petit peu mieux de l'amour et avoir la possibilité de gérer sur plusieurs tableaux, comme je le dis, sur ces 3 tableaux. Mais là, on a réussi quand même en moins d'une heure quarante à faire rentrer tout ça, et on est assez content du résultat, quoi.
Il y a des scènes qui t'ont particulièrement touché, marqué de ce que te proposaient justement Laura et Hakim des fois. Par exemple en voiture, ou sur la route, ou dans le jardin public, ou à lui filmer une clé de 12, quoi.
Ouais, il y a la clé 12, on va pas spoiler.
J'en dis pas plus.
Non, moi j'ai une scène avec Laura qui m'a vraiment touché, c'est la scène de la piscine où c'est un peu sa scène de drame, et moi là j'ai été, on a tous un peu versé notre larme pendant sur le tournage. Moi, cette scène-là, elle m'a un peu marqué, quoi.
En tout cas, il y a tout plein de scènes qui vont vous marquer. Il y a plein de surprises aussi, hein, qu'on va pas vous dévoiler, parce qu'évidemment, il faut aller voir le film, le premier film de Mourad Winter. C'est très important, un premier film. Comment tu te sens là, 2 jours de la sortie?
J'ai un peu cette pression, parce que forcément, il y a des attentes, il y a un budget, il y a des comédiens qui nous ont prêté leur image, et il faut quand même respecter ça. Donc il y a cette pression là, mais en même temps, c'est excitant, c'est génial. Il y aura peut-être pas d'autres films. On sait jamais, on sait pas, c'est la vie. Mais au moins, j'aurais fait ce premier film au cinéma, et ça, c'était un rêve de gosse, et je l'ai réalisé.
On termine par tes projets. T'as d'autres choses pour la télévision, peut-être, ou pour d'autres choses qui se préparent?
Alors, j'ai un 3e roman que j'ai commencé à écrire. J'ai le 2e roman que j'adapte en série.
Oui, parce qu'il faut savoir quand même que c'est l'adaptation de ton roman. C'est toi qui l'as écrit, L'amour, c'est surcoté. Faut quand même le spécifier.
Ouais, je l'ai écrit, je l'ai adapté, je l'ai réalisé, donc j'ai pris l'argent
du début à la fin.
Du début à la fin. Vraiment, personne n'a croqué. Je fais croquer personne sur ce coup. Puis derrière, je fais la série du 2e. Et puis, j'ai un autre film que j'ai écrit, celui-là qui n'est pas adapté. C'est vraiment une création qu'on tourne cet été.
Eh bien, écoute, merci Mourad d'avoir été avec nous pour nous donner toutes ces bonnes nouvelles. L'amour, c'est surcoté. Ça sort mercredi au cinéma. Et on va écouter la bande-annonce. Merci à toi. À très vite.
Merci beaucoup, merci à vous. Au revoir.
Ça faisait pile 3 ans que j'avais perdu mon meilleur pote. J'avais un truc à me prouver.
Les seules fois où t'as concrétisé, c'était des plans ASMA.
C'est bon, je suis discret, c'est tout.
Enchanté, je m'appelle Madeleine.
Moi, c'est les pancakes.
Très marrant, ça.
Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Il s'est encore inventé une nana, lui.
Mais t'inquiète, arrange pas, on va ken. Hein.
Quoi?
Pourquoi t'as tout ça, là?
Allez!
T'es prostituée!
Merde!
Toi, je te préviens, pas de vanne raciste.
T'as cru que j'étais un animal ou quoi?
T'es un animal?
Ouais, t'es un animal.
J'en connais un qui va encore envahir un nouveau pays. Mon zob.
Tous tes frères sont déjà casés. Toi, ça en est où?
Tu sais, moi, j'aime bien les femmes indépendantes, libres.
Putain, mais t'es sérieux, là, Guy Georges?
Quoi?
De garder les yeux ouverts pour m'embrasser?
On les a ouverts en même temps.
J'ai dit à mon père que je venais avec mon mec.
C'est le garçon dont je vous ai tant parlé, papa.
Que sa présence est vraiment requise ici. C'est pas un camp de migrants, pardon? Ah, c'est une blague.
Bim!
Allez, dans un instant, on parle de Mario Premier Regard de Léo Mattei. On va parler de la mini-série Cette Nuit-là. Et en fin d'émission, on parle de The Voice avec Mickaël Gallo qui sera notre invité exceptionnel. Alors à tout de suite.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite. Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
J'ai des frères que j'aime et j'adore aussi mon père. Et j'ai un ami mec, un vrai, qui parle fort et qui a des pecs. Qui se compare devant le miroir, qui fait le kéké dans les bars. C'est vrai qu'ils me font marrer, leurs petites douleurs, leurs grandes idées. Et leurs jambes écartées, comme si on les avait pas remarquées. Assez, et puis leurs sourcils froncés, toujours prêts à se bagarrer,
bagarrer, bagarrer.
Et qui s'empêchent de pleurer,
de pleurer, de pleurer.
Et moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi je me sens plus tranquille quand y'a des filles dans la teuf. Je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que j'ai dit que je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens plus tranquille quand y'a des filles dans la teuf. Moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que je l'ai dit que j'aime les filles aussi. Et ouais j'ai eu des amoureux, mais j'ai jamais trop su les garder. J'avais des doutes un jour sur deux, j'avoue je les ai toujours quittés. Ils m'écoutaient jamais parler, ils m'entendaient jamais pleurer. C'est pour eux c'est compliqué. Et ouais, cette foutue virilité. Qui tiendra le plus longtemps, qui fera le plus d'argent et qui sera le premier. C'est vrai parfois j'ai de la peine pour leur petit cœur qui saigne. Mais les filles elles saignent aussi. Désolé les gars. Et moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens plus tranquille quand y'a des filles dans la teuf. Je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que j'ai dit que je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi, je me sens plus tranquille quand y'a des filles dans la teuf. Moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que je l'ai dit que j'aime les filles aussi.
Rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé est consacré à Mario Premier Regard, l'aventure continue pour Clémence et Malik. Ce soir, Clémence est avec nous en ligne. Bonjour Clémence.
Bonjour.
Quel bonheur de te voir accorder une deuxième chance après évidemment ce mariage l'année dernière et ce non. On imaginait ta déception et franchement on est tellement heureux de te voir prendre une deuxième chance. Alors par contre c'est une torture, je te le dis tout de suite, parce que terminer l'épisode lundi dernier sans savoir si Malik te dit oui, franchement c'est pas possible ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de repartir?
Alors, il y a plusieurs raisons à mon envie de repartir. La première, essentiellement, c'est que malgré l'année qui s'était écoulée, bah voilà, il y avait pas eu de la rencontre qui a fait que voilà, mon cœur a basculé, donc du coup bah j'étais encore célibataire. Donc ça c'est la raison principale, et la deuxième raison aussi que je trouvais important de dire, c'est que je voulais au travers de ce retour essayer de montrer aussi qu'il faut pas baisser les bras, que j'y crois toujours, que malgré en fait cet échec, on va dire l'année dernière, cette déception que j'ai pu avoir l'année dernière, ben qu'en fait je crois toujours en l'amour, je crois toujours au fait de pouvoir rencontrer quelqu'un, que ça puisse bien se passer, et je me suis dit ça sera aussi un beau message à faire passer à tout ce monde qui a eu énormément d'empathie et de bienveillance pour moi l'année dernière lors du refus en fait. Puis moi, faut savoir aussi que cette année, ça a été l'annonce de la compatibilité a été particulière puisque moi on me l'a annoncé une fois que j'étais à Paris. On m'a dit viens à Paris, on va te faire des ateliers avec Marie et Estelle pour voir si on peut te trouver une compatibilité. Et en fait, le jour du tournage, on me dit non, tu vas pas faire des ateliers, en fait, parce qu'on a vu à la télé, hein, c'est vrai. On me dit non, ça y est, tu as une compatibilité. Et là, je me suis dit, mais maintenant que j'en ai une, je peux plus dire non, en fait.
Ben oui. Je trouve, Clémence, que tu es vraiment un exemple de résilience à tout point de vue, par rapport à ton vécu, par rapport à tout ce qu'on a pu voir dans l'émission de ta vie, en tout cas de cette aventure, d'y retourner, de toujours y croire. Voilà, tu as vécu des drames familiaux aussi, et je trouve que tu es vraiment un exemple de femme forte et de résilience. C'est vraiment beau à voir, tu es un exemple pour plein de femmes, je suis sûr, aujourd'hui.
Mais merci maman de m'avoir montré. Elle s'est battue pendant 6 mois. Je l'ai vu se battre, et je crois qu'en fait ce sont les expériences de vie. Moi j'ai pas envie de lâcher, en fait je veux toujours y croire, on peut toujours y croire. Alors c'est dur, ça n'empêche pas la chute, ça n'empêche pas de tomber, et c'est là où je fais beaucoup le parallèle avec la boxe que je pratique depuis maintenant 6 ans.
Ouais.
Des coups j'en prends, des fois je tombe au sol et des fois j'en pleure.
Ouais, mais c'est tu dur. Te relèves toujours.
Mais en fait l'important c'est de se relever. Je ne veux pas que mon passé régisse en fait mon avenir. Je veux avancer. Ça demande d'être bien entouré aussi, parce que mon entourage joue énormément aussi dans cet état d'esprit.
Ouais, mais t'as gagné toute une famille autour de Marie et Premier Regard quand même aussi.
C'est incroyable.
T'as gagné plein de copines et de copains là.
Ouais. Alors déjà, bon, bien sûr, je pense fondamentalement à Jessica qui m'a accompagnée.
Bah oui.
Sur cette nouvelle expérience. Jessica, on se voit régulièrement. C'est vraiment une belle amitié que j'ai pu trouver, et puis aussi mais certains abonnés avec qui on a pu tisser des liens, et comme j'ai dit l'année dernière, et c'est vrai et je le pense tellement fort, je n'ai pas trouvé l'amour en soi avec un mari, mais j'ai eu beaucoup d'amour, mais ça a été une vraie thérapie, et honnêtement j'en suis tellement mais tellement reconnaissante de ça.
Bon, quand t'as vu Malik, qu'est-ce que tu t'es dit
quand j'ai vu Malik? Alors je vais vous dire,
parce que lui il s'est déconnecté un total,
hein. Ah,
comme il le dit.
Lui, il avait perdu le wifi, je crois.
C'est ça. Il captait plus rien. Plus de Bluetooth, il n'y avait plus rien.
Oui, en même temps, c'est vrai que le contexte était un peu différent de d'habitude. Moi, je ne peux pas lui en vouloir. Parce que autant moi, j'étais prévenue que j'allais arriver en premier, autant lui n'était pas du tout au courant. Et dans ce genre de situation très quand même sensible et pas évidente, c'est quand même le type d'information qu'on aime bien avoir en amont. Donc je conçois qu'il ait été déstabilisé par en fait cette situation-là. Moi maintenant, quand je l'ai vu, très honnêtement, je me suis dit waouh, il dégage, il émane quelque chose, il est grand, il est carré, il m'a plu dès les premiers regards, dès les premiers instants. Après, je vais pas mentir non plus, parce que je suis pas comme ça. J'étais tellement anxieuse par rapport à l'année dernière,
par rapport à
cette situation, que très honnêtement, l'aspect émotionnel, je vais vous dire, je l'ai un peu mis de côté. Et du coup, j'ai très cérébralisé en fait cette situation en me disant, ça va aller Clem, ça va aller. Que du coup, je le voyais et tout ça, etc. Mais lui, je sais qu'il a parlé de coup de cœur. Moi, je lui ai dit, hein, d'ailleurs, je lui ai dit ouvertement, j'ai dit, écoute, moi, je peux pas te dire coup de cœur, non pas parce que je l'ai pas ressenti, mais parce que j'ai tellement cérébralisé le moment pour éviter de sombrer, pour éviter de paniquer, je savais pas trop si je lui plaisais, je lui plaisais pas, donc je voyais aussi un peu des comportements hésitants. Je me suis dit oh là 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 là, est-ce que ça va refaire comme l'année dernière? Je me suis un petit peu protégée dans ma bulle, mais voilà, j'ai fait le bisou, c'est que quand même.
Richard et Cathy Latati, Ça n'a pas été le coup de foudre au premier regard, en tout cas pour les deux, j'ai l'impression.
Alors, pour ma tante et mon père, je le savais que ça allait être différent. Déjà, ma tante ne voulait pas venir à la base. Elle n'y croyait plus en l'expérience. Voilà, mon père et moi, on a tapé le cuir pour essayer un peu de lui faire changer d'avis. Mais je savais qu'il y avait beaucoup plus aussi d'anxiété, beaucoup plus de peur pour moi cette année que l'année dernière. L'année dernière, mon père, dès les premières secondes, il faut dire aussi qu'il a vu qu'avec Romain, ça ne le ferait pas. Là, c'était différent. Il a vu mes yeux, il a vu ceux de Malik. On voit quand même qu'il y a quelque chose qui se crée quand même. On n'était pas quand même non plus sur le même contexte que de l'année dernière. Donc, je pense que c'est un père qui a eu peur pour sa fille. Maintenant, je lui en veux pas parce que je comprends tout à fait. Ce qui ne l'a pas rassuré non plus, et c'est vrai factuellement, c'est qu'il n'a vu que des jeunes en face, que des amis.
Et pour lui, qu'il n'y avait pas ses parents. On saura plus tard pourquoi les parents, en tout cas de Malik, sont pas là. Mais en tout cas, oui, ça ne l'a pas rassuré.
Ça l'a pas rassuré parce que lui il s'est dit mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne prend pas au sérieux? C'est-à-dire qu'il vient avec ses potes s'amuser? Enfin, c'est un peu le type d'idée qu'on peut se faire. Un peu égoïstement, je me suis mis un peu dans ma bulle pour vraiment profiter du moment.
Ouais.
Mais je me suis dit chaque chose en son temps. Déjà, toi, prends le temps, va au bout de ce moment-là.
Bon, je suis sûr que Estelle et Marie n'ont pas pris de risque. Moi, je suis sûr qu'il va dire oui. Je suis sûr.
Ah.
Je sais pas. J'ai mon petit nez qui me le dit, que j'espère en tout cas de tout cœur. On découvrira une chose importante quand même, parce que c'est important de le dire. On l'a répété avec Ludivine il y a quelques jours aussi. C'est que vous avez chacun face à une situation comme ça, on ne sait pas comment chacun peut réagir. Et il est important en tout cas de modérer vos propos sur les réseaux sociaux envers les candidats de Marie au premier regard. Il ne faut pas oublier que c'est des gens qui sont des humains avant tout et qu'on ne sait pas comment chacun peut réagir face à stress. C'est une expérience pareille, donc voilà, il est important en tout cas de faire attention à ce qu'on dit et de faire attention à vous. Voilà, je le dis et je le répète à chaque fois que j'ai l'un de vous en ligne. C'est important de le dire.
Ouais, vraiment, c'est très important parce que le plus dur, c'est pas le tournage.
Oui, c'est la diffusion. Bien sûr, mais oui, et ça c'est évident. Donc, est-ce que ce soir, Malik va dire oui? C'est ce qu'on va voir. Est-ce que Richard et Cathy vont tomber enfin sous le charme de Malik? C'est ce qu'on verra ce soir. Est-ce que Laurie et Anthony, Laurie va se détendre. On va voir ça ce soir, évidemment, aussi. Est-ce que du côté de Coralie et Bruno, est-ce que la lune de miel va tourner au fiasco ou au contraire, va-t-elle développer leur amour? Réponse ce soir à 21h10 sur M6. Un rendez-vous à ne pas rater. Et dans un instant, on va se retrouver avec Marie pour le nouveau rendez-vous avec l'amour. Merci beaucoup, Clémence, d'avoir été avec nous.
Avec grand plaisir.
On te dit à bientôt.
À bientôt.
Allez, tout de suite, la bande annonce.
La semaine prochaine, dans Marié au premier regard, suspendue à la réponse de Malik, Clémence vit son pire cauchemar. Et si l'histoire se répétait? Nous découvrirons quel est cet homme très compatible avec Marina, mais dont un critère physique ne correspond pas à ses attentes. Saura-t-elle faire fi de ses critères au moment du mariage?
Si tu dois lui dire non, comment tu vas lui dire?
Quant à Laurie en couple avec Anthony et Bruno en couple avec Coralie, ils feront tout pour faire oublier leur maladresse.
Petit coup de pied au cul pour dire « Allez, maintenant, bouge-toi ». Il faut se dire que là, c'est maintenant qu'il faut tout donner pour qu'il accroche.
J'ai envie de finir sur une note positive, qu'on doit passer un moment sympa et que ça ne soit pas finalement la fin de cette histoire. Qu'on se dise qu'on peut se revoir, partager des moments et apprendre à se connaître.
Cela suffira-t-il pour que l'amour triomphe?
Allez, notre coup de cœur télé continue après Marie au premier regard. Il y a un nouveau rendez-vous avec l'amour. Ben oui, depuis maintenant 3 semaines, on va découvrir en tout cas la suite de l'aventure des speed dating de Marie qui est en ligne avec nous. Bonjour Marie.
Bonjour, enchantée.
Merci d'être avec nous. On est très heureux de t'avoir, ma chère Marie. Alors, il est vrai que l'année dernière, ça a été très compliqué avec Jérémy, ce mariage, qui a pas tenu. Et c'est vrai que c'est une nouvelle chance, en tout cas, pour toi, de trouver l'amour et pas ce coup-ci au premier regard. Mais c'est toi qui vas faire un petit peu ton tri dans l'épisode qu'on a vu. Et parmi ce tri, tu as craqué, en tout cas, pour l'instant, sur Paul et Raphaël, qui ont été les deux élus avec lesquels tu vas passer un petit peu de temps par la suite. Mais avant de développer un petit peu ça, dis-nous ce qui t'a poussé à ce nouveau rendez-vous avec l'amour. Qu'est-ce qui t'a donné envie?
Alors déjà, ce qui m'a motivée à participer à cette nouvelle expérience, c'est parce que pour rencontrer des nouveaux prétendants qui, eux, voulaient me rencontrer. Et puis aussi parce que depuis mon histoire avec Jérémy. J'avais pas forcément la tête à rencontrer de nouvelles personnes. J'avais vraiment besoin de prendre du temps pour moi. Et là, c'était le moment idéal pour me lancer dans cette nouvelle aventure et rencontrer des personnes que je n'aurais peut-être pas rencontrées comme ça sur Biarritz, là où je suis.
Alors c'est vrai qu'avec l'aventure que tu as vécue l'année dernière, et là tu as dû recevoir un paquet de lettres. Comment tu as fait pour faire ton tri? Qu'est-ce qu'il a fallu qu'elles aient ces lettres pour attirer ton attention?
En fait, c'était vraiment une question de feeling, en fait. Alors moi, déjà, de base, je trouvais le fait d'écrire des lettres hyper romantiques, hyper romanesques, un peu comme à l'époque. Je trouvais ça, déjà, j'étais hyper contente de pouvoir participer à ça sous ce format-là. Je trouvais ça vraiment génial.
Ouais.
Et puis, c'était, une belle tournure de phrase, la façon dont il pouvait s'exprimer à l'écrit, en fait. Et puis, quelque chose que je ressentais ou pas, en fait, il fallait vraiment que ça me crée une émotion, quoi. Ou alors de la curiosité. Mais en tout cas, c'est vrai que ça a été un peu ça pour les six hommes que j'ai sélectionnés, où vraiment je voulais les rencontrer suite à la lecture des lettres.
Bon, en tout cas, si vous êtes fan de Mario Premier Regard et de L'Amour est dans le Pré sur M6, ça tombe bien, cette émission est faite pour vous, puisque c'est vraiment le mélange des deux. C'est clair?
Oui, un petit peu.
C'est un peu le mélange des deux.
Un petit peu. Non, mais c'est... Ouais.
Dans le système des speed dating et tout, donc voilà. Et puis donc, c'est Paul et Raphaël qui ont trouvé grâce, en tout cas, à tes yeux, dans l'épisode de lundi dernier, ouais. Où tu vas vivre quelques aventures. Alors, on sait, à la fin, on le sait, que tu vas trouver peut-être la perle rare parmi les deux. On savait pas lequel. Suspense, mm-hmm. évidemment, puisqu'on mm-hmm. verra ça ouais. ce soir lundi. À 23h juste après Marie au premier regard, mais en tout cas on a beaucoup rigolé. Le premier, il était vraiment très sûr de lui.
Oui, bon, après c'est vrai que alors moi j'ai beaucoup ri aussi en voyant
Ah, il t'en laissait pas placer une.
Oui, c'est vrai. Bon, après il y a eu le montage, etc. Mais c'est vrai que et après c'est compréhensible aussi. Il voulait beaucoup en dire parce qu'on avait quand même peu de temps. Donc je comprends aussi il voulait vraiment me montrer toutes ses facettes et pouvoir vraiment me séduire en peu de temps. Et je pense que pris par le stress aussi, il a voulu beaucoup en dire et ne rien oublier. Et bon, c'est compréhensible aussi. Et en tout cas, j'ai passé un très bon moment avec lui.
Bon, puis après, Georges Clooney, c'est pas ta cam, hein?
Non, pareil, c'était pas trop ça. Très gentil aussi, mais pas trop le feeling non plus, ouais.
T'as longuement hésité quand même avec Simon, quand même.
Énormément.
Ouais.
On a
vraiment l'impression que ton cœur a eu du mal à pencher. Tu savais pas trop, hein. T'avais l'air clair pour un des deux, mais entre le deuxième et le troisième, ça avait l'air dur pour toi.
Non, mais c'était vraiment super dur parce que j'aime pas faire de la peine de devoir faire un choix comme ça. Et puis surtout, c'est vrai que j'avais vraiment eu un coup de cœur pour Simon parce que il dégageait une telle sensibilité, une telle douceur. Et je sentais qu'il y avait rien de faux chez lui. Enfin, c'était vraiment... vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour lui. Mais je me sentais pas... J'arrivais pas à me projeter avec lui. Il manquait un tout petit truc. Et alors que j'y arrivais plus pour Paul et Raphaël.
Ouais, qui avait le petit truc en plus.
Ouais, c'est un petit truc qu'on n'arrive pas à expliquer, mais qui fait que comme il fallait que j'en choisisse deux, j'ai choisi ces deux-là. Mais coup de cœur pour Simon, qui est vraiment une belle personne.
Bon, ça c'est chouette. En tout cas, ça t'a permis de faire de belles rencontres. J'espère en tout cas qu'il y en a une des deux tu vis un joli bonheur, parce que tu le mérites. Et franchement, c'est vraiment chouette de pouvoir avoir une belle émission comme ça qui parle d'amour. Ça fait du bien. Toi, t'es fan de ce genre d'émission ou pas? Est-ce que tu regardes Les Petits Copains cette année?
J'adore. Non, mais j'adore. Évidemment, je suis devant la télé tous les lundis soirs. Déjà avant de participer à Marie au premier regard, je regardais déjà. Moi, j'adore. Dès que ça parle d'amour, L'Amour est dans le Pré, Marie au premier regard, ça fait vraiment partie de mes émissions. J'aime quand on s'attache aux gens, en fait. Avant, je regardais l'émission en me disant waouh, c'est fou ce qu'ils vivent. L'année dernière, je la regardais parce que j'y étais. Et cette année, je la regarde en l'ayant fait. Et en fait, c'est en regardant Les Petits Nouveaux que j'ai encore une fois réalisé la folie et le truc incroyable que j'avais vécu. Franchement, c'est vraiment une expérience folle, et quand on l'apprend de la bonne façon, ça nous permet tellement d'évoluer et d'avancer et d'en apprendre beaucoup sur soi. C'est franchement, c'est une thérapie en accéléré, quoi, vraiment.
Bon, c'est quel couple ton chouchou cette année, hors Clémence, hein, parce que tu la connaissais, donc ça compte pas.
Elle était
avec nous il y a un instant, donc hors Clémence. Est-ce que c'est notre chouchoute à tous, cette année?
Là, pour l'instant, donc des couples qu'on a vus, je pense que je dirais quand même Coralie et Bruno.
Ouais, Coralie, elle dégage quelque chose de très très émotionnel. C'est vrai que je trouve que c'est une très belle
incroyable.
Personne.
Incroyable.
C'est vrai.
Bon, et puis Bruno aussi, de son côté, on sent qu'il veut bien faire, qu'il peut-être a trop en faire, mais en tout cas, lui aussi, je crois qu'il a voulu tout donner à ce moment-là pour la séduire. Et non, franchement, je pense que c'est ce couple-là, ouais. Puis le côté aussi atypique dès le début. Après, franchement, j'ai aimé beaucoup Jennifer et Kane aussi. Anthony Laurie, c'est quand même plus compliqué. Les débuts, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Et ouais, mais franchement, et puis Sophie Guillaume aussi. Alors par contre, ouais, Sophie et Guillaume, la famille de Sophie, mais tellement incroyable.
Ah oui, c'était un des plus beaux mariages qu'on ait vu. Hein.
Ah.
Dans Marie
ah
au premier
la
regard.
La cérémonie, mais incroyable, ouais. Incroyable. Avec son père, mais tellement touchant. Il est génial, son père. Moi, j'ai gros coup de cœur pour Sophie et sa famille.
Ouais, c'est clair. Sophie et même Guillaume, ils étaient très, très beaux tous les deux.
Oui.
Voilà, ça c'est sûr et certain.
Ouais.
Bon, en tout cas, nous, on te souhaite plein de belles choses. Ce soir, on va découvrir la suite, en tout cas, de ton aventure à 23h. Alors, moi, je fais partie de ceux qui, grâce à MC Plus Premium, ont pu voir un peu en avance. Donc, je ne dirai rien, même sous la torture, je ne dirai rien. Mais en tout cas, je peux vous dire que pour Marie, ce soir, on va verser peut-être quelques petites larmichettes d'émotion, en tout cas, mais on va vivre voilà, un bon moment avec toi en tout cas.
Et on va rire aussi, ouais. Franchement, c'était vraiment top.
Bon, merci Marie.
Bah, merci à vous.
Nouveau rendez-vous avec l'amour ce soir, 23h sur M6.
Ouais.
Et bah allez, c'est parti avec la bande-annonce. Merci beaucoup Marie, à très vite.
Ouais, à ce soir. Merci beaucoup.
La semaine prochaine, Marie va trouver le grand amour avec l'un de ses deux prétendants.
On fait ce qu'on peut.
Si c'est raté,
ce sera de ta faute.
En tout cas, Paul et Raphaël, chacun à sa manière, sont prêts à tout pour conquérir le cœur de la jolie blonde.
Ah oui, d'accord. Mon Dieu.
Dans la numérologie, vous avez exactement le même chemin de vie.
Visiblement, ça marcherait assez bien.
Entre séduction...
Je m'attendais pas à une telle rencontre.
T'aimes bien ?
Ouais.
Tant mieux.
Vocal et pattes sur la vitre.
Et jalousie.
Ah donc t'as eu la chance de rencontrer Moquette.
Ouais.
Tous les coups seront permis pour que l'amour soit au rendez-vous.
Bon bah mec, c'est maintenant ou jamais quoi. J'aimerais bien qu'elle me choisisse.
Ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ce début-là quoi. Et je suis très heureuse, oui.
Allez, notre coup de cœur télé consacré à la mini-série Cette nuit-là qui débarque sur France 2. À cette occasion, on a la grande chance d'avoir Myriam Vinocourt, la réalisatrice qui est avec nous. Bonjour Myriam.
Bonjour.
Merci d'être là. Pascal Elbé est là avec nous également aujourd'hui. Bonjour Pascal.
Bonjour, bonjour.
Et puis on a l'héroïne de cette mini-série. Je suis bien content. Elle est de retour. On a été là à ses débuts dans Camping Paradis. Et là, c'est un très beau rôle, celui de Sophia, qu'elle nous propose Barbara Prost. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là tous les trois. J'ai beaucoup aimé cette mini-série qui est pleine de suspense, d'histoire. Il y a vraiment une histoire très forte derrière, évidemment, Sophia, qui, après une violente dispute avec ses parents, va faire le mur. Et le lendemain, au réveil, plus personne. Il n'y a plus de petits frères, il n'y a plus de parents, il n'y a plus personne. Et évidemment, eh bien, ça va durer 20 ans, cette histoire-là, avant que de petits signes viennent se réémisser dans sa vie. Myriam, comment est née un peu la genèse déjà du projet, pour commencer ?
Alors, moi, on est venu me chercher un peu plus tard que la genèse du projet, c'est-à-dire que quand la productrice Sophie Exbraya m'a appelé, le scénario était en cours d'écriture, voilà, et moi, je me suis venu me greffer à ce projet à ce moment-là, quoi. Donc, la genèse, en fait, c'est une adaptation d'un livre de Linwood Barclay, qui est un auteur canadien. Voilà, donc c'est une adaptation. Je n'ai pas voulu lire le roman pour pas être pollué par des choses qu'il y aurait pas dans le scénario.
Et garder une certaine liberté peut-être aussi quand même dans sa réalisation. Barbara, comment t'as appréhendé ce rôle de Sophia ? Qu'est-ce qui t'a plu en elle ?
Alors déjà, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est aussi Sophie Exbraya qui est venue me proposer ce rôle. Avec le premier épisode de la série, c'était le seul épisode écrit à ce moment-là. Et tout de suite, j'ai été emballée, je me suis laissée prendre par cette histoire, par ce personnage qui est plein de doutes, qui se construit sur tout un pan de son histoire dont elle n'a pas les clés, dont elle n'a pas les codes, et il faut tout, un peu comme un puzzle, quoi, reconstruire et essayer de comprendre qui elle est, tout autant moi en tant que comédienne, essayer de comprendre ce personnage comme elle essaye de se comprendre en tant que femme, à travers sa propre histoire.
Et c'est donné aujourd'hui qu'elle va être épaulée par son mari, incarné par Pascal Elbé, mon cher Pascal, qui va tenter de l'épauler, cher Pascal.
Je l'épaule plus souvent qu'à mon tour.
Qu'est-ce qui t'a plu dans ce rôle-là, toi ?
L'intrigue. C'est ce principe simple de dire, du jour au lendemain, une famille disparaît. Comment se construit derrière ça ? J'aime bien ces sujets quand ça traite de l'humain, mais en même temps, ça nous dépasse. J'aimais ça, j'aimais l'intrigue de départ. Après, c'est une promesse qu'il faut tenir. Bah, après, ce que j'ai aimé, c'est quand on a commencé à la fabriquer, c'est la collaboration avec Myriam, déjà. C'est une alchimie, hein, vous savez, ce métier, ce travail, c'est une alchimie folle. Ça veut dire qu'on peut avoir un bon scénario, des bons acteurs, un bon réalisateur, et bizarrement, ça fonctionne pas. Mais quand même, pour essayer d'aller au bout de quelque chose qui se tient, qui est bien, c'est quand même de pouvoir collaborer, de pouvoir fabriquer tous ensemble. Et c'est vrai que je rends encore hommage à Myriam Winocourt de nous avoir vraiment laissé nous nous avoir fait rentrer dans l'histoire et dans la fabrication de l'histoire, et on était comme une espèce de petite troupe à essayer de chercher parfois des solutions, parfois il y avait des choses qu'il fallait rajouter ou enlever, mais on était flux tendu, en fait on était un peu comme nos personnages, on était en espèce d'état d'urgence de raconter au mieux cet univers, et ça c'est parfois la télé qui vous le permet de pouvoir, pas toujours. Mais là, ce que j'ai aimé, c'est cette collaboration. C'est qu'on était, on était vraiment très, très impliqués, très excités, parce qu'on sentait qu'on pouvait tenir quelque chose. Mais encore une fois, l'alchimie, elle arrive quand tous ces éléments sont réunis. Ben, faut savoir assembler tout ça. Et c'est ça, c'est le travail de la réalisatrice. Ben, vous avez des beaux rôles et tout, mais si vous savez, c'est pas la peine d'avoir un beau personnage dans un film bancal où on comprend rien. On s'en fout de votre beau personnage. Le principal, c'est l'ensemble. Moi, mon personnage, il est intéressant, mais il est là en soutien. Ce que je trouvais génial, c'est toute l'histoire, c'est de se dire. Et puis cet univers, quand on a tourné, bon, c'est vrai que c'était compliqué, intense, et c'est vrai que compliqué dans les Vosges parce qu'on avait une météo difficile, mais ça participe tellement à la magie à l'univers. Il y avait quelque chose de très. Et je crois que c'est très universel. Je crois que c'est une histoire qui peut se raconter n'importe où. Et cette série, elle peut aller se promener vraiment beaucoup.
En tout cas, est-ce que vous avez avalé le scénario d'un coup ? Parce que moi, j'avoue qu'après avoir vu seulement les deux premiers épisodes, j'ai tellement hâte d'avoir la suite. Il y a tellement de mystères autour de Sophia, il y a tellement de choses qui semblent se graviter. Ça a l'air d'être beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Mais quand vous êtes comédien et que vous lisez un scénario, est-ce que on y va d'une seule volée tellement on est happé par l'histoire, Barbara ?
En tout cas, on a envie de connaître la suite et la fin. Mais comme je le disais tout à l'heure, au départ, moi, il n'y avait qu'un épisode en fait d'écrit quand on m'a proposé la série. Donc j'avais hâte, en fait, j'avais envie de connaître.
On est tous dans le même état alors.
Ouais. Mais c'est ce qui m'a plu, c'est-à-dire que il y avait ce qu'on appelle des cliffhangers, quoi, la fin des épisodes. Était, enfin, en tout cas, le premier quand je l'ai reçu était très fort, quoi. Ça donnait très envie de se jeter dans la suite, et c'est vrai que du coup voilà, on a dévoré, enfin en tout cas je vais parler pour moi-même, dévoré chaque épisode quand il arrivait en attendant de connaître la fin.
En tout cas, c'est une dispute avec ses parents qui va mettre un peu le feu aux poudres, va faire le mur, tout ça pour une histoire d'amour, hein, en quelque sorte, évidemment, comme les adolescents de son âge à 15 ans. Mais évidemment, c'est le lendemain, quand elle va vouloir revenir à la maison, bah, la maison va être vide. Et c'est ça un peu le synopsis, c'est un synopsis mais hyper fort. Mais 20 ans après, on va commencer un tout petit peu à raconter dans quel contexte tout ça est revenu un peu hanter ce personnage de Sophia. Mais juste après la bande-annonce, cette nuit-là, c'est débarque cette semaine sur France 2.
Cette nuit-là, il a dû mettre beaucoup d'aide dans cet ouvrage, non ? Quand on connaît un peu l'histoire de Sophia...
J'en ai marre de cette baraque de merde ! Je voudrais que vous soyez tous morts !
Maman ?
Tom ! L'implication de Sophia Legrand dans la disparition de ses parents n'a jamais été claire.
Papa ?
Quoi ?
Je crois que c'est elle qui les a tués. En tout cas, moi, je crois pas que ce soit elle.
On m'observe, je suis sûre que c'est mon frère.
Elle pense que c'est vous, son frère.
Je m'appelle Jérémy Muller. J'ai jamais eu de sœur.
Tu vois, maman, c'était pas lui.
Il ment.
Je crois que votre père, il s'appelle pas Charles Legrand.
D'accord, donc il aurait vécu sous une fausse identité pendant tout ce temps. Avec papa, vous étiez proche, non ?
Oui, c'était mon ami, oui.
Et Corinne Blanchevin, ça te dit quelque chose ?
On a des choses à se dire, toi et moi.
Hein ?
Wisp ? Louise ? Maman, mais qu'est-ce que t'as fait ?
Allez, de retour pour notre spécial Cette nuit-là qui débarque sur France 2. Myriam, on va donc se retrouver basculer 20 ans plus tard, où Sophia va organiser une espèce de soirée pour dédicacer un livre.
Oui, alors donc le tout début de la série, ce sont les, je sais pas, 5-10 premières minutes, donc ils sont qui se passe en 2001, et on est projeté donc 23 ans plus tard. Sophia vient d'écrire un livre qui est un roman, mais elle s'est pas mal inspirée en fait de son histoire. Elle a besoin d'exorciser toute cette histoire, et donc voilà, comme elle écrit ce livre. Et donc, elle va le présenter. Donc, il y a une séquence de dédicace. Et à cette occasion, un premier signe un peu troublant.
Va venir un peu amener une crise de panique chez elle, en quelque sorte. Et surtout, c'est qu'elle va trouver un peu de compréhension, et surtout un journaliste, incarné par Hugo Becker, qui va l'aider dans sa quête. Ça aussi, c'est un peu l'essence aussi de cette nuit-là, c'est le cas de lire.
Oui, complètement, mais en même temps, c'est pas forcément de la compréhension tout de suite, ou en tout cas, elle le perçoit pas comme ça.
Non, elle le prend pour un fruit de merde, hein, clairement, au départ. Hein.
Et puis parce que je pense que c'est là où ils se retrouvent, où ces deux personnages se retrouvent, c'est qu'ils ont, lui, en tant que journaliste, a ses propres raisons, sa propre quête, en fait, de, voilà, ses propres envies de revenir sur cette affaire.
On découvrira pourquoi, évidemment.
Pourquoi. Mais voilà, ce sont deux individus tout autant perdus, mais de manière différente et pour des raisons très personnelles, qui vont se retrouver et s'entraider pour avancer sur cette affaire.
Sur cette histoire et essayer de faire la lumière, effectivement, sur ce qui s'est passé. Retrouvera-t-elle son frère? Retrouvera-t-elle ses parents? C'est tout ce qui va, effectivement, nous emmener jusqu'à la fin de ces 4 fois 52 minutes. Au départ, son mari, Sofia, quand même, la prend limite au sérieux. Il se demande quand même si, alors pas si elle est folle, mais il se dit, voilà, est-ce que tu vas pas un peu loin? C'est vraiment, il se pose des questions quand même.
Bah, tout le monde s'en poserait. C'est pour ça que cette série me plaît, c'est que si ça nous arrivait à nous, on se poserait sans doute aussi les mêmes questions.
Est-ce qu'on ferait confiance aveugle?
Est-ce qu'on fait une confiance aveugle? Est-ce qu'on sait tout de l'autre? Est-ce que elle est obligée de cacher un pan de sa vie pour ne pas heurter le couple? Il y a 1000 questions à se poser sur le... Mais c'est vrai qu'au début, je me dis pas qu'elle est folle, mais je peux dire qu'elle a été, on va dire, entre guillemets, entamée par cette histoire. Et après, évidemment, le mari veut savoir ce qui s'est passé, mais ça rend fou, parce que, en réalité, quand on se met, parfois, mon personnage peut paraître parfois un peu subir, un peu passif, mais en réalité, quelle est la réponse à amener? On peut pas savoir. Si quelqu'un a vécu cette période, qui a vécu le premier chapitre de sa vie aussi foudroyant, quelle serait notre réaction? Comment on peut réagir? On ne sait pas. C'est terrible parce qu'on est le personnage qui est beau aussi dans ce personnage-là, c'est l'impuissance absolue face à la réponse. Il n'y a pas de réponse qu'on peut donner immédiate. On est fragilisé, on est impuissant, et c'est terrible pour un homme qui est toujours le chef de tribu, un patriarcat en France. On a cette tradition de se dire je peux pas amener de réponse et je suis obligé de subir les événements. Ça aussi, c'est intéressant. Et puis, c'est intéressant parce que je crois que dans le livre, si vous l'aviez lu, c'est Myriam. Mais apparemment, j'ai appris que c'était vécu par l'homme, le père. Donc, vous voyez, et comme, et on est dans une époque où maintenant, vous savez, la part est absolue. Bientôt, l'abbé Pierre, ce sera joué par Sabine Azéma. Et
comme on veut. Bon, il fallait qu'on le cite à un moment donné.
La part est absolue. On a permuté ça avec une femme. Mais c'est intéressant. Parce que du coup, je trouve que la place du père, il est bousculé, parce que c'est lui qui doit tenir cette maison et il tient plus rien. Et c'est pour ça que je trouve que le fait d'avoir permuté, c'est vrai que c'est enrichissant. Et je trouve que ça donne un angle qui est pour moi plus intéressant que si ça avait été le mari qui fait souffrir sa femme. Non, c'est drôle que ce soit ce type-là qui se dit qu'il sert plus à rien, que c'est faux. Et bien sûr qu'il est là pour l'aider.
Et puis surtout, je crois, parce qu'on en avait beaucoup parlé en amont du tournage, mais ce qui nous tenait très à cœur, c'était d'avoir ce socle familial très fort. Et que vraiment ce trio, entre le mari, le père, la mère et leur ado de 15 ans, soit un noyau extrêmement solide qui va être fissuré, mis à l'épreuve avec tout ce qu'ils vont traverser. Et pourtant... Voilà, c'est ce qui les fait tenir, et c'est ce qui fait qu'elle réussit, elle d'ailleurs, à se relancer dans cette quête. C'est parce qu'elle sait qu'elle a ce socle-là qui lui permettra de ne pas ressombrer dans les méandres de la folie.
En tout cas, leur fille, elle a une sorte de mimétisme quand même avec Sofia au même âge, jouée par Fantine Ardoin, qu'on a découvert dans Prométhée sur TF1, qui est juste dingue aussi. On a l'impression de la découvrir un peu... de revenir au début en fait du premier épisode et de découvrir Sofia au même âge.
Et c'est ce qui est, moi qui m'a intéressé en plus sur le rapport mère-fille, c'est-à-dire que mon personnage n'a plus eu sa mère à partir de cet âge-là. Donc il y a aussi tout d'un coup une question de se dire, elle ne sait peut-être plus comment être mère elle-même, elle a plus d'exemple à partir de son adolescence. Donc ça vient tout bousculer, c'est-à-dire que tout d'un coup elle commence petit à petit à perdre tous ses repères, et en même temps c'est le terreau, le meilleur terreau pour se reconstruire et commencer ce nouveau chapitre.
On va découvrir cette nuit-là, en tout cas cette semaine sur France 2, les deux premiers épisodes. Merci Barbara, merci Pascal, merci Myriam d'avoir été avec nous pour en parler. Vous allez pouvoir découvrir également aussi l'intégralité sur France.tv. Ça, c'est la bonne nouvelle pour ceux qui ne peuvent pas attendre. À bientôt.
À bientôt, merci.
Merci.
Merci beaucoup.
Maman ? Tom !
C'est quoi ce bordel ? Se passe quoi, là ?
20 ans ! Ça fait 20 ans que j'essaie de comprendre !
Il y a des nuits qu'on n'oublie pas. Cette nuit-là, jeudi sur la plateforme France.tv et le mercredi 23 avril sur France 2.
Allez, notre coup de cœur télé est consacré à Léo Mattei qui fait son grand retour jeudi sur TF1 pour une toute nouvelle saison inédite. Et Héloïse is back dans cette nouvelle saison. Maïra Schmitt est en ligne avec nous pour en parler de ce grand retour. Bonjour Maïra.
Bonjour, je suis en écoute la TV.
Ça va bien ma chère Maïra?
Ça va bien et toi?
Eh ben oui, je suis très très heureux de t'avoir. Tu sais qu'on voilà, on t'a régulièrement pour tes projets, on t'aime beaucoup. Et on est très heureux de te voir revenir, en tout cas dans Léo Mattei, qui je crois que c'est une série qui t'a fait énormément grandir, où t'as joué de nombreuses saisons pour le coup.
C'est ça.
Puis bah là, tu vas partir en vacances avec papa, évidemment. Tout va pas se dérouler comme prévu dans cette nouvelle saison.
Et non, sinon c'est pas marrant.
Bah,
évidemment,
non.
C'est Léo Mattei, c'est donc s'il n'y a pas d'enquête, à quoi ça sert?
Exactement. Qu'est-ce qui t'a donné envie de revenir déjà?
Je pense que c'est tout simplement Jean-Luc, l'équipe, c'est des gens que j'aime foncièrement beaucoup. Donc bah ça donne envie de revenir en fait. J'avais voulu aussi un petit peu voir d'autres choses, d'autres horizons, faire d'autres projets, et puis en fait, je me sens tellement bien avec eux, j'y retourne. Et puis c'est aussi une habitude quoi. Donc même si on fait une petite pause, on a envie de revenir.
Il y a quelque chose qui ressort très souvent que ça soit dans les guests ou dans l'équipe justement de Léo Mattei, c'est qu'il y a quelque chose de très humain dans ces tournages.
Carrément. Bah déjà en fait, je pense que Jean-Luc et Nathalie qui réalisent inculquent ça, et c'est un peu le mot d'ordre sur leur plateau. Il y a quelque chose d'assez beau, il y a souvent des repas, il y a souvent des fêtes. C'est assez rare de voir ça en fait sur les tournages, parce qu'aujourd'hui c'est un peu bon bah allez hop, on fait tout à la chaîne et puis on travaille et puis après chacun rentre chez soi.
Bah
alors
oui.
Que là c'est vraiment la grande famille, et en plus même dans l'équipe technique on en retrouve, il y en a, ça fait, enfin ils sont là depuis que j'y suis aussi quoi. Donc
Il y a un parcours très compliqué pour Héloïse, pour le coup, dans Léo Mattei. Elle avait disparu pendant de nombreuses années. Et c'était un peu le fil rouge pendant plusieurs saisons. Va-t-il retrouver un jour sa fille? Et puis un jour, t'es revenu avec évidemment des séquelles psychologiques de tout ce qui s'était passé et de ton enlèvement. Mais malgré tout, on sent en tout cas ce père et cette fille maintenant plus soudés que jamais. Et on a l'impression, en tout cas, que tous les deux avec Jean-Luc, que Jean-Luc et Maïra sont aussi soudés quasiment que Héloïse et Léo.
Bah c'est pas faux. Enfin, c'est-à-dire qu'on a créé, on a commencé aussi à créer des choses un peu en dehors de Léo Mattei. Par exemple, il a très gentiment reçu mes grands-parents sur toute une journée. On a fait une journée où il était au théâtre. Ensuite, une journée, on est allé le voir sur le plateau des 12 coups de midi. Donc, c'est vrai qu'il y a des liens qui se créent. Et puis, ça va faire quelques années qu'on se connaît maintenant. Donc, c'est pareil. On a fait pas mal de repas ensemble. Nos familles se connaissent. Donc, c'est rigolo. Je connais ses enfants. Il connaît mes grands-parents, mes parents. Et puis, je pense qu'on est assez complices aussi dans la manière de travailler, dans la manière d'être. On essaie d'être des bonnes personnes, j'ai l'impression, et ça se ressent parce qu'on s'est bien trouvé, quoi.
Il est comment sur un tournage, pour le coup, Jean-Luc, par rapport à un tournage des 12 coups de midi, par exemple, où là, c'est une bonne humeur joviale? Est-ce qu'il est plus concentré?
Ben, c'est une très bonne question, parce que moi, j'avoue que quand j'ai été sur le plateau des 12 coups de midi, j'ai été impressionnée, parce que ben voilà, je le voyais vraiment au centre de l'attention, des caméras, avec une énergie redoutable, et puis bon, évidemment, très souriant. Et c'est vrai que moi, je le connaissais plutôt sur les plateaux de tournage, où là, il va être évidemment beaucoup plus calme, mais c'est parce qu'il est aussi très, très concentré. Mais je pense que c'est une autre forme de concentration. Ben, sur Léo Mattei, il y a beaucoup de textes, alors que sur les 12 coups de midi, il va être en impro, donc il peut se permettre, mais en tout cas c'est plus du tac au tac quoi, alors que sur Léo Mattei il a des tonnes et des tonnes et des tonnes,
ouais,
des montagnes de textes à apprendre, c'est très écrit, donc il est très concentré. Par contre il va pas rater une occasion de faire une blague, il va rigoler avec absolument tout le monde. Je le vois faire aussi souvent avec les jeunes, il est très gentil, il prend soin des enfants quand il y en a, que tout le monde se sente bien en fait. Il a un œil sur tout, Jean-Luc, il se souvient de tout, donc même des trucs que je lui ai dit il y a 10 saisons il va s'en souvenir. Donc ça, c'est assez touchant.
Alors début de saison, raconte-nous, tu pars en vacances avec papa?
Alors début de saison, je pars en vacances avec papa. Évidemment, ça ne se passe pas comme prévu, mais tout va bien pour moi parce qu'il y a encore mamie. Donc on retrouve toute la petite famille Mattei avec Brigitte Fosset qui joue Clo.
Ouais, ça c'est énorme.
Et ouais, ça c'est vraiment génial.
J'ai l'impression d'être un peu la Sophie Marceau de Léo Mattei.
Ouais, c'est ça. Waouh. C'est de la chance. Non, c'est génial. Moi, j'adore. En plus, Brigitte, c'est pareil. On commence à bien se connaître et c'est pareil. Elle se souvient de tout. Donc, c'est assez chouette de la retrouver. Et je suis contente parce que cette année, Héloïse se lie aussi un petit peu plus avec Inès, Lola Dubini. Voilà, on a eu quelques petites scènes ensemble, donc c'était chouette.
Il y a quand même de sacrés guests. Il y a Arthur Junior, Natacha Saint-Pierre dans cette saison, il y a Jennifer Lauré, Alexandre Varga la semaine prochaine, il y a du sacré beau monde qui est venu vous voir.
Ah ouais, 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 il y a du sacré beau monde. Moi, j'avoue que je suis toujours un peu impressionnée. Et puis, d'année en année, c'est vrai qu'on a vraiment des guests de qualité qui viennent. Et c'est toujours sympa parce que tout le monde a l'air content. Et moi, comme j'ai l'impression un petit peu de faire partie de la famille Mattei, la base, ceux qui sont là tout le temps, bah, ça me fait plaisir de voir toutes ces personnalités défiler. Et puis, voilà, des acteurs et des actrices que j'admire, de pouvoir jouer avec eux. En fait, c'est chouette, quoi.
Eh oui, ça se bouscule au portillon, en tout cas du côté des guests encore pour cette saison, avec trois soirées inédites qui vous attendent dès jeudi à 21h10 sur TF1. On va terminer par tes projets, Maïra. Qu'est-ce qui t'attend pour les mois à venir?
Bah écoute, je viens de terminer ma première réalisation de court-métrage, donc c'était déjà énorme.
Génial.
Donc pour les mois à venir, je me remets tout doucement au casting, mais c'est vrai que ça fait un petit moment que j'en ai pas passé parce que j'étais absorbée dans ce travail-là. Et j'essaye d'aller faire des festivals, montrer mon film et puis du coup je recommence à écrire parce que je crois que j'aime vraiment bien ça. Donc doucement mais sûrement, mais en tout cas je viens de clôturer une belle partie de ma jeunesse.
Et ça t'a donné envie de faire un long ou pas?
C'est tellement de travail et tellement difficile que j'ai encore
besoin. Que ça t'a calmé pour l'instant?
Non, pas du tout. Non. Ça m'a donné envie de continuer, mais j'ai encore besoin d'apprendre
de
des choses sur des cours. En fait, j'aime bien le format court parce qu'on peut s'exprimer et en même temps, il y a moins de gens qui vont le voir à l'arrivée parce que c'est des formats courts, donc c'est plus réservé
aux noctambules. Voyant
de court-métrage. Voilà, aux noctambules de France TV.
C'est ça.
Donc voilà, donc pour l'instant, je reste en format court, mais évidemment, je pense un jour, je passerai au long. J'aimerais beaucoup en tout cas.
C'est ce qu'on te souhaite en tout cas. Merci Maïra d'avoir été avec nous. On te retrouve donc dans Léo Mattei jeudi à 21h10 sur TF1 pour les deux premiers épisodes inédits de la série. À très vite.
À très vite.
Et tout de suite ta bande annonce.
Rappelle-moi ma fille, on a déjà passé des vacances ensemble?
Non, jamais.
Eh ben tu vois, c'est bon d'en taper le temps perdu.
S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide.
On a un gamin de 10 ans, son père est urgentiste, il croit à un empoisonnement.
Vous êtes la bonne personne pour cette enquête.
Merci, super les vacances.
Et tu n'oublies pas que je t'aime.
J'ai comme l'impression qu'on a voulu empoisonner votre fils.
Et qui voudrait faire du mal à Adam?
J'espère qu'on va vite retrouver cet enfoiré.
T'as pas vraiment la tête d'un policier?
C'est quoi la tête d'un flic pour vous?
Je sais pas. Pas comme toi.
Bah allez, vas-y, balance, je sais que t'as flashé sur elle.
Vous savez, Anaïs, c'est un mystère. Rien de difficile à percer.
Comment ça? Il se passe un truc entre nous, non?
Si vous arrivez à lire dans son cœur, elle restera.
Léo Mattei, nouvelles enquêtes, jeudi 24 avril sur TF1.
Ne bougez pas, dans un instant, Michael Gallo, le demi-finaliste de The Voice, nous rejoint. Il sera en demi-finale samedi en direct sur TF1. Alors à tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook. Chut, on écoute la télé.
Si je m'attache au temps qui court, si demain m'appelait au secours, si mon cœur devient même lourd pour toi, je resterai pour toujours. L'horloge tourne autour de moi, tout est rose autour de toi, les étoiles défilent autour de nous. Je suis côté de l'est à l'ouest, sur tes qualités je peux compter. Jamais je retournerai ma veste, ma vie je la passerai à tes côtés. Je te lirai matin et soir, s'il le faut. Jusqu'à tard, s'il le faut. Quand le temps pourra rien changer. Même s'il devait s'arrêter, je serai toujours à tes côtés.
Dans le temps ne pourra rien changer. Même s'il devait s'arrêter, je serai toujours à tes côtés. Les mots suffiront pas pour dire tout tout tout. Toi et moi c'est les, je me demande si pour toi je donnerais pas tout tout tout. Si t'es ma consonne, laisse-moi être ta voyelle. Écrivons toutes nos phrases au pluriel. Et si chaque page de notre livre était un poème, rendons l'histoire intemporelle. J'suis côté de l'est à l'ouest, sur toutes qualités je peux compter. Jamais je retournerai ma veste, ma vie je veux la passer à tes côtés. Le temps ne pourra rien changer. Même s'il devait s'arrêter, je serai toujours à tes côtés. changé. Même s'il devait s'arrêter, je te toujours à tes côtés.
Les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook Chute on écoute la télé. Chute on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé consacré à The Voice, c'est la demi-finale samedi sur TF1 en direct. Et vous avez peut-être suivi son parcours, en tout cas nous, on l'a suivi depuis le début. Tout a démarré le 8 février 2025. Michael Gallo a séduit les coachs, et notamment Patricia Cass. Et depuis, il y a eu les groupes, les battles, il a passé toutes les étapes pour arriver enfin à cette demi-finale tant attendue où il va avoir besoin de vous, cher public, pour voter aussi. Évidemment, pour l'emmener en finale, Michael Gallo. Allô, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Quel parcours de fou. Je crois que ta vie a totalement basculé. Mais ça, on en prend conscience évidemment sur le tard, puisque ce que tu as tourné en novembre est passé en février. On doit avoir hâte que la diffusion arrive déjà.
Ah bah depuis le début, on est impatient. Et puis à chaque fois, c'est vrai que c'est de surprise en surprise. On voit les montages, on voit tout ça, et c'est en tout cas c'est des belles surprises parce que on est dans un domaine qu'on maîtrise pas, la télé, et en même temps on est sur l'art, notre art. On diffuse nos messages et ça c'est vraiment top.
Alors toi qui étais meneur de revue, qu'est-ce qui t'a décidé à passer le pas d'aller faire The Voice, parce que t'as déjà une carrière artistique quand même assez bien droite dans tes bottes pour le coup. À quel moment t'as eu ce déclic ?
C'est ma coach vocale, Lisa Palma, qui m'a gentiment dit « Si tu ne fais pas le casting à Perpignan, je te mets un coup de pied aux fesses. » Parce que, justement, je reprenais des cours de chant. J'avais besoin, en tant que meneur de revue, justement, de prendre soin de ma voix. Et elle m'a dit « Non, mais avec la voix que tu as, tu devrais le faire. » Effectivement, j'ai accepté de le faire. Puis, en fait, tout s'est aligné jusqu'à maintenant, quoi. Les étoiles sont là, les planètes sont alignées.
Bon, t'as hésité quand même entre Florent Pagny et Patricia Cass. Pourquoi Patricia ?
Patricia, parce que déjà c'est une voix singulière, c'est un univers très particulier, très ancré, très intense. Puis il y a un petit côté cabaret chez Patricia et forcément j'ai aussi ça en moi. Mais c'était compliqué parce que Florent Pagny, voilà, c'est là quand même une grande voix française aussi. C'est un monument, enfin les deux sont des monuments de la chanson française. Mais Patricia Cass, bon, il y a eu des choses qui ont été dites malheureusement qui n'étaient pas dans le montage, mais ça m'a beaucoup plus touché. Donc je me suis dit allez, on va entrer dans la lumière.
Oui, parce que c'est ça aussi. Faut séduire les coachs, et puis après, c'est eux qui essayent de vous séduire et d'aller avec eux. Et puis, aujourd'hui, c'est tout un parcours que t'as mené depuis le début maintenant avec elle, qu'on a pu suivre, en tout cas, tout ce printemps. Le point d'orgue, c'est la demi-finale. Mais on va revenir sur ta première prestation. Sony, c'est toi qui l'avais choisi, la chanson?
Oui, alors c'est une chanson qui me suit depuis le début. Ça a été d'ailleurs ma chanson d'audition pour le cabaret, le Moulin Bleu, dans lequel je suis actuellement. Et ça a été vraiment une chanson déclic et une clé. Et en fait, depuis le premier casting à Perpignan jusqu'aux auditions à l'aveugle, c'est celle-ci qui est restée présente.
Alors, celle-là, c'est du coach, évidemment. C'est une chanson porte-bonheur, quelque part, pour toi, celle-là?
Ah oui, bah c'est celle qui permet de passer de l'ombre à la lumière, comme dans la chanson, comme dans le thème. Et effectivement, c'est une chanson qui montre mon étendue de voix avec le feeling, tout ça. Donc, en tout cas, oui, c'est ma chanson porte-bonheur et je pense que je la chanterai toute ma vie.
On écoute un petit extrait?
Maintenant, là?
Ouais. Allez, on appuie sur le bouton. On écoute Michael Gallo dans ses œuvres. Ça, rappelez-vous, c'était le 8 février dernier.
Yesterday my life was filled with rain. Oh, someday.
Oh, c'est beau ça aussi.
You smile at me and really is the pain. Doubt as I come and the brothers are here.
Oh, oh, oh. Il chante du bien bien.
Is anyone so true? Love you.
c'est ce qu'a séduit en tout cas Patricia Cass, Florent Pagny notamment, et donc Mickaël a choisi Patricia Cass pour ce parcours assez dingue. Alors après, il y a eu vraiment cette nouvelle étape, c'est l'étape des groupes aussi, qu'on a vécu il y a quelques semaines.
Oui, alors l'étape des groupes, on était quatre sur la chanson, c'était une chanson de Calogero, Un jour au mauvais endroit.
On peut dire que toi, t'as été un jour au bon endroit là quand même, plutôt.
Oui, alors on peut dire ça, mais j'ai eu peur quand même parce que j'avais trois filles qui chantaient, enfin qui chantent toujours super bien, et j'étais le seul garçon, la tonalité était vachement haute, je me suis dit, oh là, je vais pas m'en sortir, je vais me cramer, ça va pas marcher. Mais la magie du travail, de la persévérance et de la détermination ont fait que j'ai pris la chanson à bras le corps, mais dans le côté émotionnel. Enfin, le sujet m'a vraiment touché parce que voilà, de personnes qui sont mortes à cause voilà d'une espèce de bataille. Enfin, je crois voilà, ça s'est passé à Grenoble, il y a eu tout ce truc là, et en fait ça m'a tellement touché. Je me suis dit, en fait, quand j'ai chanté sur scène, j'ai chanté pour ces deux personnes et non pas pour juste un concours. Et je pense que ça a changé la donne. Je me suis vraiment connecté à leur histoire. Puis voilà, le jury a été unanime et ça fait vraiment plaisir.
Alors après, pour revenir sur ton parcours, il y a aussi eu les battles que tu as vaincu pour arriver à ces demi-finales avec une chanson qui s'appelle Under Pressure.
C'est ça, oui, c'est Queen, Freddie Mercury et David Bowie. On est parti un peu sur l'inspiration de David Bowie et Annie Lennox quand il y a eu le concert après en hommage à Queen. Freddie Mercury, pardon. J'arrive pas à les dissocier.
Non, mais on n'arrive pas à les dissocier ni les uns ni les autres. Hein. Rassure-toi, t'as pu montrer aussi que tu savais, t'étais aussi bien à l'aise sur des chansons anglaises que des chansons françaises finalement aussi. C'est ça qui est bien d'avoir pu montrer cette diversité.
Oui, et puis ça fait partie moi de mon parcours depuis toujours. Hein. J'ai autant de feeling avec le répertoire anglo-saxon que français. Et cette chanson, en fait, sur Under Pressure, il y a une espèce de largeur de voix à avoir, et ça passe du grave à l'aigu d'un coup. On est, c'est impressionnant. Et puis la partenaire que j'avais était aussi impressionnante. C'est Théona qui est une Georgienne qui est venue faire The Voice, et c'est vrai que moi j'avais encore peur. En fait, chaque étape, je crois que j'ai eu peur, mais je me suis pas démonté. Je me suis dit, allez go, on y va, on donne tout. Et c'est vrai qu'on nous a clairement dit qu'on était la plus belle battle des 14 dernières saisons de The Voice. Et ça, c'est le plus beau compliment.
C'est que vous êtes plus que trois maintenant par coach. C'est important, un accompagnement comme ça par une pro comme Patricia Cass. Est-ce qu'elle a été à vos côtés régulièrement depuis ? Est-ce qu'elle a pris de vos nouvelles ? Est-ce qu'elle vous aide ? Est-ce qu'elle est toujours là pour les conseils ?
Alors oui, effectivement, Patricia est assez présente. Je m'attendais pas à ça justement, mais après, je pense que comme c'est sa première saison, elle est très investie. Pour vous dire, voilà, je l'ai eu au téléphone à un moment donné. Ça fait vraiment bizarre d'avoir Patricia Cass au téléphone, mais effectivement, faut choisir les chansons pour la demi-finale, faut travailler tout ça. Elle propose des choses et même dans les moments où on va la voir avec nous, elle était présente. On a passé plus d'une heure autour du piano. Elle est là sur le plateau de répétition, elle nous coach en direct, etc. Vraiment, c'est une personne qui est très investi et franche, honnête. Enfin, en tout cas, j'ai eu plaisir à travailler avec elle et j'ai tellement d'affection pour cette femme, quoi. Bah, maintenant, elle a changé ma vie quand même.
C'est clair. Juste avant de parler de l'avenir, justement, on va écouter un petit extrait de tes deux prestations sur les battles et sur la session groupe. Et on va revenir juste après. Mickaël Gallo est notre invité aujourd'hui, samedi, c'est la demi-finale de The Voice. Un rendez-vous évidemment à ne pas manquer sur TF1. On continue à en parler juste après. On écoute. C'est ce qu'on peut appeler un parcours sans faute. En tout cas, mon cher Mickaël Gallo est avec nous. Voilà, on arrive maintenant, deux mois et demi plus tard. C'est les demi-finales. C'est donc samedi. Comment tu te sens à aller 5 jours du direct là?
First I was afraid, I was petrified. Là, ouais, j'ai peur parce que c'est toujours impressionnant en fait. Et puis en direct aussi, il y a tout un plein de paramètres à prendre en compte, avoir des hirs dans les oreilles, ce que je ne travaille jamais avec ça. Et là, je me dis, bon, ça va être une grande première.
On te parle pendant que tu chantes, au pire.
Je sais pas, peut-être Nikos qui va me donner des conseils, ou Patricia. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que je vais donner le maximum de ce que je peux, comme j'ai fait sur les autres prestations. comme je dis, je veux graver dans le marbre, dans l'or, je ne sais quoi. Voilà, la télé pour moi, c'est ça va rester à vie en fait, sur les réseaux, partout. Et je me dis, si on tape Michael Gallo, on va voir ça, et je vais être fier des chansons que j'ai présentées. Puis déjà, je suis fier de moi, et je remercie tous ceux qui me soutiennent et surtout ma famille, parce que grâce à eux, j'ai des ailes.
Et t'es bien entouré, ça c'est toujours très important pour un artiste qui émerge comme ça. Samedi, demi-finale, c'est le public aussi qui va donc avoir le destin entre leurs mains, ton destin entre leurs mains. Et tu te vois déjà en finale ou pas, clairement? Est-ce que tu te prépares déjà un peu, on va dire moralement, ou tu te prépares aussi moralement peut-être à ce que ça s'arrête là, mais que ça soit aussi le début d'une autre aventure?
Oui, je me prépare dans le sens où, comme j'ai fait depuis le départ, je visualise, je me fais des phrases positives et je me dis, allez, on y va. J'ai envie d'être en finale, ça c'est sûr et certain. Mais si je ne le suis pas, en tout cas de se dire qu'on est demi-finaliste de The Voice, mais c'est déjà extraordinaire. Et puis j'espère qu'effectivement ça va apporter des choses positives pour la suite, en termes de professionnel, quoi. D'avoir des beaux projets, des propositions, et puis d'être enfin ce chanteur professionnel que j'ai toujours voulu être, voilà, que je ne m'avouais pas, parce que j'étais je faisais de la prestation de service pour les autres, comédie musicale, cabaret. Et là aujourd'hui, c'est Michael Gallo qui a envie d'exister vraiment avec ses chansons. Donc on verra, on va prier le dieu de je ne sais quoi qui qui va nous permettre d'aller en finale, bien sûr, hein, et chanter en duo avec Patricia Cass, ça serait magnifique.
Ça serait génial. En tout cas, le pari est tenu, on prend tes nouvelles en mai, on se recontacte en mai, et puis on essaye de se reconnecter ensemble pour pouvoir te réinviter et justement revenir sur cette demi-finale et cette finale. On espère évidemment qu'elle va t'apporter plein de belles choses. Est-ce que toi, t'as déjà des choses de prêtes? Un single, des projets qui arrivent, un album en tête. Je sais qu'Aurélien Vivos, par exemple, il y a 2 ans, avait déjà quelques petites choses qui étaient un peu prêtes.
Alors oui, on a travaillé dur. Hein. Là, je suis sur la finalisation de mes compositions. Effectivement, on est sur la variété française, avec aussi une grosse partie où ça groove, des chansons un peu aussi anglaises. On a essayé de faire quelque chose qui soit à mon image, parce que voilà, de tout ce que j'ai montré en fait dans les émissions, c'est exactement moi. Et je me sens un peu comme un caméléon, dans le sens où je sais que je peux aller sur plusieurs répertoires. Mais là, d'un coup, d'écrire ce que je ressens en fait. C'est tout bête, mais pour moi, c'est très important. Et donc, ça va passer par peut-être plusieurs styles, mais c'est moi le lien de tout ça, et donc j'espère que ça va sortir bientôt, quoi.
Le choix des chansons samedi, c'est toi qui les fais uniquement, ou c'est en collaboration avec Patricia? Est-ce que t'as ton mot à dire quand même sur les chansons que tu vas chanter samedi?
Oui, on est parti sur une liste de ce que j'avais envie. On a le programmateur musical Jérôme Maubert qui est là aussi pour nous aiguiller, pour nous proposer des choses. Et Patricia, justement, aussi a sa liste. Et puis d'un coup, on a vu des choses en commun. Et c'est ça qui a amené au choix de la chanson. Des fois, les choix peuvent paraître surprenants de premier abord, mais d'un coup, quand on se projette, quand on essaye, on se dit, ah oui, punaise, j'avais pas pensé à ça, à ce style-là, ou cette manière de chanter, ou en tout cas, on y met sa personnalité, et surprise, hein, ça sera samedi.
Exactement, The Voice, c'est un accélérateur de notoriété, comme la Star Academy, c'est vraiment des télécrochés aujourd'hui, où on voit énormément, justement, la jeune génération de chanteurs émerger. Est-ce que tu te prépares à cette notoriété soudaine, même si depuis le 8 février, t'es un petit peu plus arrêté dans la rue, quand même, maintenant?
Un petit peu, quand même. Pas trop, en tout cas au début, pas trop. Après le reste, c'est les aléas. Mais je pense que quand on fait ce métier, c'est qu'on a aussi envie d'une certaine notoriété, parce que on partage des choses, les artistes, nous on partage, donc forcément les gens vont être réceptifs ou pas. Mais en tout cas, on suscite quelque chose dans le public. Et justement, moi, mon but, effectivement, c'est que s'il y a un petit peu de notoriété, que ça soit en tout cas utile pour moi, certes, mais aussi, j'ai envie de le dire, mais c'est que je me suis dit, si je fais The Voice et qu'il y a une notoriété, je veux qu'elle soit utile dans l'idée de partager avec des associations caritatives, etc. Là, je suis en lien avec l'association Les Souffres-Douleurs de l'école, 1785, qui, lutte contre le harcèlement scolaire. Et donc moi c'est très important. Je suis aussi au niveau de l'association Le Souffle 17, qui permet aux gens qui ont des maladies respiratoires de se retrouver et d'être soutenus dans ces problématiques là. Donc j'ai déjà 2 combats assez forts, et je veux absolument que cette notoriété puisse servir à aider, à promouvoir, etc., ces personnes.
Dernière question, on va te laisser une fenêtre ouverte. S'il y a des artistes qui nous écoutent ou des gens qui les connaissent et qui les écoutent, avec qui t'aimerais collaborer? Avec qui t'aimerais chanter, faire un duo?
J'ai beaucoup d'amour pour, alors c'est bizarre, pour Stromae, en termes de compositeur, d'univers, c'est incroyable.
Bon, merci en tout cas à toi d'avoir été avec nous, Mickaël. On te retrouve donc samedi pour la demi-finale de The Voice. Et puis évidemment, n'hésitez pas à soutenir Mickaël. Il faudra voter samedi soir en direct si vous voulez voir Mickaël, qui est peut-être votre candidat préféré, accéder à la finale. Merci à toi.
Merci à vous.
Et à très bientôt.
Bah, j'allais dire la même chose. À très bientôt.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé. Chute, on écoute la télé se délocalise en Martinique. Exceptionnellement, une grande émission de 2 heures vous attend sur le tournage de la série Tropique Criminel avec Sonia Roland, Béatrice Dehaboulé, Julien Bérami, ce producteur, réalisateur. Ils seront tous là pour fêter ensemble la fin de la saison 6 qui aura lieu le 2 mai sur France 2. À cette occasion, nous recevrons également Angélique Angarni-Philopon, notre Miss France, première Miss Martinique élue Miss France. Elle sera avec nous sur ces terres. C'est la cerise sur le gâteau, une émission exceptionnelle qui vous attend avec de nombreux reportages également découvertes sur l'île.
Le rendez-vous des stars, c'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Et je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier en Nouvelle-Aquitaine. Des glaces sans ajout d'arôme, sans colorants, sans conservateurs. Découvrez les sorbets, crèmes glacées, cônes artisanaux et la nouvelle gamme de peaux gourmands Jade et Ali, disponibles dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Et retrouvez les boutiques, les ateliers de Langélis à Pontaillac, La Rochelle, La Cotinière et Bordeaux. Chut, on écoute la télé avec vos boutiques de prêt-à-porter Speak en Nouvelle-Aquitaine. Speak, c'est la mode homme, femme, des pépites chaque semaine pour tous les budgets. Mais Speak, c'est aussi un corner seconde vie pour les vêtements que vous ne portez plus. Alors n'hésitez pas. Plus de 15 boutiques Speak vous attendent en Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez toutes les adresses et la boutique en ligne sur speak.fr.